Estive.
Estive.
Voyage au cœur de la culture pastorale des Alpes. Une émission proposée par la Maison du Berger.
Estive.
Tu sais, on est vraiment proche du milieu naturel, hein, malgré tout qu'il y ait une clôture autour de l'alpage. Elles évoluent vraiment à leur guise. Hein, elles n'ont pas de choses qui les dérangent. Hein. Si, un peu moi qui viens les faire lever des fois pour voir si elles n'ont pas de problème à la mamelle ou au pied pour les faire marcher un peu. Mais là, tu vois, on va repartir et elles vont se recoucher. Hein, c'est encore la période là où elles chôment. On dit qu'elles chôment, qu'elles se reposent, elles ruminent. Elles sont venues autour du point d'eau pour s'abreuver un peu, puis elles se reposent. Hein. En fait, elles font que ça, elles se reposent et elles mangent toute la sainte journée.
Le mec qui pousse son VTT en train de monter, là,
ouais. Ah ouais.
On le voit juste dans sur l'arête, là, à la cassure du chemin, il est juste le petit point noir.
On dit que l'alpage du Sénépi est le plus grand alpage clos et organisé de France. Au total, 1200 hectares, 40 km de clôture, 850 bovins, principalement des génisses, qui appartiennent à une trentaine d'éleveurs, et un berger, Sylvain Turc, qui passe ici sa 23e saison. Zoom sur les réalités du métier dans cette immensité et sur deux aspects de l'activité quotidienne, soigner les bêtes et les inséminer.
Le métier de berger, c'est vraiment un boulot ancestral, mais qui, sur l'alpage du Sénépi, est quand même épris un peu de modernité, quoi, parce que effectivement, j'ai un 4x4 pour me déplacer. Dès que les portables sont arrivés, ben, j'ai eu un portable. Avant, on a été même un peu précurseur parce qu'on avait des systèmes de radio pour communiquer avec les éleveurs en bas. Quand je suis arrivé, le chalet n'était pas dans cet état, mais j'ai installé des panneaux solaires. On a un chauffe-eau gaz pour avoir de l'eau chaude. Quand il fait froid, ben, on a un poêle à bois, une cuisinière. On a quand même un confort relativement élevé sur cet alpage. Je sais qu'il y a des collègues qui n'ont pas tout ce confort. Et puis l'accès surtout, c'est vrai que tu parlais de 4x4, mais c'est vachement important, quoi. Ça, c'est sans vouloir faire de jeu de mots, vachement important. Mais quand on peut accéder au chalet, ça simplifie beaucoup de choses. Ça, tous les transports de matériel, de personnes. Et quand il y a 1h30, 2h de marche pour arriver jusqu'au chalet, ben, voilà, tout ce qu'on va pouvoir y amener, ça va être à dos d'homme ou alors un héliportage en début et en fin de saison, ce qui est relativement onéreux. Donc ça simplifie énormément. Sans vouloir faire des pistes d'ailleurs de partout dans les alpages, mais qu'il y en ait quand même un minimum pour que les alpages soient viables, un minimum.
Une kératite à l'œil gauche, elle pleure un peu, tu vois, puis elle a l'œil un peu enflé, je sais pas si tu vois. Genre elle est juste derrière.
Bonjour.
Le moindre petit détail ne doit pas être laissé au hasard. Ça peut être une mouche, ça peut être un rassemblement de troupeaux qui n'est pas un déplacement, qui n'est pas habituel, des choses comme ça. Je travaille beaucoup à la jumelle, hein. Je suis presque 50% du temps derrière mes jumelles. Après, c'est un peu l'habitude, hein. C'est toujours un peu les mêmes problèmes qu'on rencontre d'une année sur l'autre. Essentiellement des problèmes de boiterie, problèmes de panarie, des problèmes aux yeux, des problèmes à la mamelle. On a pas mal de mammites en ce moment. Je sais les enrayer ce genre de problème. Si vraiment c'est beaucoup plus grave ou que ça le devient, eh ben, je prends mon portable et puis ben, j'appelle le véto et il monte. Bon, il faut savoir qu'ils montent souvent pour leur donner l'extrême onction, on va dire. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment dans les cas un peu désespérés où j'ai vraiment plus de solutions.
Ça, j'ai soigné, tu vois, là, un cas. C'est le cas de kératite, elle avait un problème à l'œil. À mon avis, elle a une kératite, la 8. 88-81, je l'avais noté ou pas, celle-là?
La 8.
Bon, allez, enlevez-vous du milieu, s'il vous plaît.
Non, tout.
Oula, qu'est-ce qu'elle nous a fait, elle, là?
Oh, oui.
Alors ça, c'est très chiantox, ouais. C'est un...
C'est
en fait, c'est une sorte de descente d'organes, en fait, qu'elle a, elle.
Toi,
c'est l'utérus qui sort un peu comme qui fait une sorte de boule derrière, ouais. Et elle, je me demande si elle n'est pas un peu habituée à ça. Mais je revois son numéro. C'est vraiment pas beau du tout, ouais. On essaie des fois d'y repousser, mais je suis pas sûr que ça tienne bien. On va rester garé par là.
Si on mange, attendez des
vaches. Ah non, je vais pas oublier de manger là, ouais. Plein de poussière. Non, on va manger un peu là-bas sur l'arête, comme ça on aura de la vue.
Ouais.
On aura un petit peu d'air. On aura pas trop de fermer un peu parce que sinon elle rentre la tête dans la voiture et alors après elle peut démarrer. C'est fermé.
Bah en fait, au départ, on est tous un peu bergers dans l'âme, je crois, et j'aspirais bien, au moment de l'adolescence, à ces moments un peu de solitude, de grandes immensités, de pouvoir s'organiser seul, de ne pas avoir forcément quelqu'un dessus moi. Et puis, chemin faisant, il y a une place qui se libérait donc, sur l'alpage. J'ai proposé ma candidature, et puis bah, j'ai été retenu. Donc, étant fils d'agriculteur, j'ai eu une formation agricole à la base, hein, puisque j'ai un BTS, dans la gestion agricole, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que je fais actuellement. Mais voilà, j'ai pris cette place. Au départ, je ne voulais pas trop m'engager. Puis finalement, j'étais parti pour une année, peut-être voire deux, et puis j'y suis resté 23. Enfin, ça fait 23 ans que je suis là. Alors, ça n'empêche pas que l'hiver, j'ai une activité différente, quoi. Parce que là, c'est toujours un peu les mêmes choses et les qu'on rencontre d'une année sur l'autre, hein, même si chaque moment est unique, hein, parce que là on peut l'observer, le paysage, la nature, les animaux, toutes les choses sont vraiment différentes et changeantes en fonction de la saison.
Vous voulez voir le numéro de celle qui a le gros bout de pognon derrière là. C'est une 67, hein, ça c'est sûr. Ouais, bouge pas, on est peut-être devant le tour, 67-44-07. Je vais la noter.
Cette vache, en fait, elle a une sorte de descente d'organes, c'est-à-dire que c'est son vagin, son utérus qui est ressorti. Je vais devoir lui le repousser. Souvent, c'est qu'il y a une distension de ligaments, de choses comme ça, donc c'est possible que ça revienne, quoi. Ces trois dernières années, ça a dû arriver une fois ou deux, mais
ah
plus.
Ouais.
Non,
ah
c'est
ouais,
vraiment
d'accord.
Très rare.
Hein. C'est des sortes de suppositoires, en fait. Pour quand je l'aurai repoussé, je me traite dedans, ça lui désinfectera un peu tout ça, et puis de toute façon on va rien lui faire de mieux, je pense que on va refermer parce que sinon on irait la pouiller.
Voilà, c'est ma caisse à outils de veto. Là-dedans, normalement, je dois avoir à peu près tous les produits qu'il faut pour les soigner, pour pas avoir besoin de redescendre, quoi, parce que sinon ça compliquerait vite les problèmes, parce que là je viens de l'attraper, ça n'a pas été hyper évident, je pourrais pas la laisser toute seule comme ça dans le couloir, donc s'il fallait que je descende à la clinique veto pour récupérer des produits, donc il faut quand même essayer d'avoir en permanence sur soi tout ce qu'on peut avoir besoin. Donc. Non, habituellement je soigne plutôt des pieds, des mamelles, des yeux, ou alors des blessures qu'elles se font des fois en glissant dans les rochers ou contre les arbres ou des choses comme ça, ou même des fois entre elles, hein. Celles qui ont des cornes, des fois ça peut faire mal. Hein. Je pense qu'on n'est pas loin de l'entrée du col de l'utérus en fait, hein. C'est tout comme c'est tout ressorti.
Ouais.
J'ai remarqué que je viens quand même à l'âme, lever la queue, et j'ai essayé bien de la faire lever. Non, c'est pas trop mal là, hein, franchement.
Ouais.
Donc moi je me déplace en 4x4 pour les grands déplacements, je reste tout le temps sur la piste et après je fais tout à pied, où là je vais des fois pousser 80, 200 bêtes pour en attraper une seule sur des fois 1 km ou 500 mètres pour les amener à côté du piège. Alors le piège, souvent je mets la pierre à sel à l'intérieur, comme ça elles sont habituées à l'infrastructure pour les attraper, mmh. Et je la rentre d'autant plus facilement. Sur la partie pour les amener sur les 500 mètres, 1 km, je travaille des fois avec le chien. Sinon, après, sur la partie finale, je travaille avec des rubans, c'est beaucoup plus fin, des rubans blancs et rouges, là, de chantier, hein, de sorte de rubalise. Et puis, je les rentre comme ça dans le piège, quoi. C'est beaucoup plus simple.
Bon, maintenant, l'autre opération, ça va être d'y bourrer là-bas dedans, ça va pas être une partie de plaisir, je sens. Mmh. Allez, c'est parti. On va d'abord essayer de rentrer cette partie-là. Alors évidemment, là, c'est peau de fer contre peau de terre.
Toutes les bêtes subissent une prise de sang à la montée. On contrôle leur carte d'identité, leur
papier.
Voilà, leur papier, hein, que tout corresponde bien et que tout soit en accord avec les services vétérinaires. Parce que vous imaginez bien que si on montait une bête qui est contagieuse ici, qu'il y aurait une brucellose ou quelque chose comme ça, ça serait rapidement la catastrophe.
Des fois, il faut attendre un petit peu, c'est qu'elle lâche ses efforts, parce que là, t'as vu comme elle force, là. Elle s'arc-boute complètement. Je pense que dès que j'aurais sorti ma main, je pourrais rentrer la partie droite en bas. Le problème, c'est qu'elle tire sur tout. Hop, il faut un peu la contrer. On a de la bouse en même temps. Non, franchement, c'est pas sûr que ça tienne. Hein. Fait que faut maintenir un moment.
Mmh. suite après à m'être lavé les mains, là, je vais tout noter sur un calepin. Et ensuite, je rétribuerai tous ces renseignements aux éleveurs, si bien qu'ils sauront au centimètre cube près de produits qu'elles auront eu dans les veines, dans les muscles ou sous la sous-cutanée. Du coup, je noterai tout ça, le jour, la date, le numéro de la bête, et tout sera rétribué à la descente.
En chaleur, tu vois. Hop, elles tombent dessus. Ouais. Quand elles font ce petit meuglement là, comme ça là, ça annonce qu'il y en a une en chaleur dans les parages.
Ouais, mais c'est que des filles.
C'est que des filles, effectivement. Elles se montent dessus l'une l'autre et c'est comme ça que tu observes de loin à la jumelle qu'il y en a une à inséminer dans les parages. Après, pour savoir si je dois l'inséminer, parce qu'il y a tous les jours, il y en a 25-30 en chaleur hein, sur l'alpage, des fois même plus. Mais je ne les insémine pas toutes, quoi. J'insémine seulement celles qui sont cochées à la médaille. Tu vois la médaille transparente, là, comme la 11. Il y a un petit triangle, ben, comme celle-ci, là, voilà, 31. Quand il y a un petit triangle comme ça, ça veut dire que je la ferai qu'à partir du 1er août. Donc celle-ci, même si elle vient en chaleur, je ne la fais encore pas. Et si elle a le triangle qui est tout rayé dessous, là, je l'insémine à partir de la première fois où je la vois en chaleur, je peux l'inséminer. Ah ouais. Voilà. Donc dans cette grosse bonbonne cryogénique où il y a de l'azote liquide à moins 196 degrés, sont conservées donc les paillettes de spermato. Wow. Donc ici, tu vois, j'ai le plan où sont rangées les petites paillettes. Et là, en l'occurrence, il me faudrait le taureau gazelle, donc qui est au milieu à gauche. Donc je pense qu'il est ici, si tout est bien rangé. Et voici donc le petit taureau gazelle. Là, je ne vais plus pouvoir te parler pendant un petit moment, parce qu'il faut décongeler la paillette. Voilà, je mets la petite gaine que je change à chaque fois sur ma grande seringue, qui fait à peu près une trentaine de centimètres. Et donc, je vais passer par voie naturelle. Hein. On me dit insémination artificielle. Ce qu'il y a d'artificiel, c'est tout simplement qu'on va prélever sur un bon papa taureau du sperme et qu'on va lui permettre d'inséminer un plus grand nombre de bêtes. C'est tout. Hein. On va pas... Oh, mais elle me mange le gant, mais c'est incroyable, cette vache. Voilà, j'ai mis mon gant, et donc avec ce grand gant que j'ai mis sur la main droite, et c'est un peu comme pour l'écriture, on ne sait pas forcément inséminer de la main gauche quand on est droitier.
Ah oui.
Donc je passe avec ma main droite par l'anus de la bête, mais attention, c'est pas là où effectivement je vais mettre les graines. Donc l'anus, pourquoi ? Pour avoir un toucher à travers la paroi du rectum le plus juste possible. Voilà, et au bout d'un moment, elle va carrément se détendre, vous allez voir, elle va lever sa queue, elle va plus bouger. Elle se détend. Je fais perler les spermatozoïdes. Ils arrivent juste au bout, là. Hop. Je détends bien son vagin. Je passe. Ça, il faut faire être très précautionneux, surtout pas rentrer de la bouse ou quoi que ce soit à l'intérieur. Et là, je sens parfaitement bien son col d'utérus. Elle est bien détendue. Hop, je passe le col d'utérus. C'est pas plus long que ça. Et je pose les 5-7 gouttes de spermatozoïdes derrière. Les trompes. Ouais. Sur la glaire, on voit aussi qu'elle est vraiment bien en chaleur. Voilà, et normalement, si tout se passe bien, ben dans 9 mois, un petit veau devrait pointer le bout de son nez. Souvent, on a un peu cette image bucolique des romans de Giono et compagnie, et où on voit le berger qui est perdu un peu tout seul dans la montagne avec sa grande barbe, sa cape et ses échasses. Non, on en est des fois un peu loin hein, de la réalité, puis d'autant plus qu'on nous donne quand même un tas de responsabilités, parce qu'on veut bien les prendre aussi, parce que c'est intéressant, hein, une sorte de multi-usage où on va à la fois devoir gérer un peu le relationnel avec les chasseurs, gérer le troupeau, gérer l'alimentation en eau. Là, prochainement, il y a un trail qui va passer, le trail des passerelles qui passe sur l'alpage, qui est un des grands trails. Ils attendent à peu près 3000 personnes. Et ben, il faut savoir aussi gérer ce genre de coexistence, quoi, si on va dire, sur l'alpage. Avec les touristes, voilà. Et puis à côté de ça, bah, il faut savoir réparer un abreuvoir quand il fuit, parce qu'il peut y avoir 400 bêtes qui vont dépendre de cet abreuvoir et qui risquent d'avoir soif. Et là, ça va être terrible. Si jamais elles manquent d'air, bah, ça sera pas très rigolo. Mais si jamais elles manquent d'eau, elles vont tout casser, quoi. Elles toléreront pas de manquer une journée d'avoir un manque d'eau. Donc il faut savoir un peu gérer un petit peu tout ça. Et puis... tout ira bien, quoi.
Bon, ben on va peut-être aller justement continuer à faire le tour de cet alpage. On ne fait pas tout le tour aujourd'hui, hein, c'est ça.
Non, on ne fait pas tout le tour, mais on va voir l'ensemble des bêtes.
Bon, on y va.
On y va, on est parti.
La saison d'alpage terminée, au début du mois d'octobre, les vaches rendues à leurs éleveurs, Sylvain Turc redescendra chez lui et retrouvera son entreprise d'entretien et d'aménagement de l'espace rural et montagnard, avant de redevenir berger, dès le printemps suivant, à l'alpage du Sénépi.
Estive. Voyage au cœur de la culture pastorale des Alpes. Une émission proposée par la Maison du Berger.
Estive.